donné la source de sa naissance, d'où surgissent toutes espérances. Toi qui as prouvé aux grandes puissances comment, au cœur même de l'enfant, Dieu le magicien, qui tient le monde dans ses mains, entend le chant de la puissance, entend le chant de la grande, qui monte d'un coin sur la planète. Un enfant d'eau baptisé qui veut.
Ma mémoire vivante, pour moi, c'est un François, ce qui veut dire aussi un Français.
Ben oui, c'est ça, justement.
Parce que l'ancien français, on disait François pour dire des Français.
Exactement.
Le François d'Amérique, ça voulait dire le Français d'Amérique. Et les seuls Français d'Amérique, c'est ceux du Québec. Maintenant, dans votre livre, vous nous amenez à conclure une chose très évidente. C'est au Québec, parce que c'est dans les territoires d'Espérie.
C'est ça.
Ça veut dire de l'ouest, sur la même latitude que la France.
C'est ça.
Qu'on retrouve là la présence de cet être ou de ce personnage qui serait, pour le moment, retourné dans les vieux pays.
Ben, disons que c'est ça. C'est essentiellement dans toutes les données que la tradition donne, c'est évident que c'est jamais clairement expliqué. Mais un bonhomme comme Paracelse, par exemple, c'était un frère spirituel de Nostradamus, il avait fait un sarcasme à certains théologiens, leur disait, il dit, vous avez cherché des preuves de la création du vieux monde, mais vous ne croyez pas que l'Éternel aurait pu penser aussi à la création du nouveau monde. Et à ce moment-là, on était en pleine, justement, découverte du nouveau continent. Alors, il n'y en a pas dit plus, il n'y en a jamais dit plus. Par contre, c'est évident que dans Nostradamus, il y avait beaucoup d'indications, et j'en prendrai une, par exemple, qui est très intéressante. Il parle, à un moment donné, d'une sorte de fils spirituel. Alors, c'est entendu, le fils spirituel, ça serait en principe quelqu'un qui, comme Nostradamus, connaît plusieurs langues, ou au moins serait capable de se révéler à plusieurs langues, d'une certaine façon. Alors, c'est évident que c'est pas n'importe qui peut faire ça. Alors, des personnages comme ça, moi, j'en connais pas beaucoup. D'ailleurs, j'en connais pas présentement vraiment là, qui pourrait peut-être être lié à ça d'une façon évidente.
Quel événement physique va l'amener à se manifester au grand jour?
C'est essentiellement, je pense, c'est quand... Bon, je pense qu'on dit que c'est plate un peu, les catastrophes et les malheurs et tout ça. C'est essentiellement dans... l'eschatologie que l'Évangile de Saint Matthieu nous présente, quand Jésus annonce une série de catastrophes, de malheurs, et là, peu après ces malheurs-là, mais même pendant, en fait, là, la parousie survient. Alors, il se passe quelque chose de spécial, on dit « tout œil le verra ». Alors, c'est très important, ça, « tout œil », ça, c'est dans l'Apocalypse. Alors, c'est très important, parce que quand on dit « tout œil », pourquoi on ne dit pas « tous les yeux le verront » ? Alors, on parle peut-être de l'œil de la conscience, comme on dit, on parle de le troisième œil, comme on l'appelle. Alors, c'est assez spécial. Et le contexte, évidemment, est difficile à situer, mais je pense qu'on a quand même des dates qui sont relativement certaines. Nostradamus donne plusieurs dates qui tombent toutes dans le début des années 90. Alors, ce n'est pas demain. Alors, si, par exemple, à 86, un personnage vous arrive et vous dit « Voici, je suis le grand monarque », c'est peut-être vrai, mais il me semble qu'il y a des dangers qu'il y a des récupérations politiques derrière tout ça. Là. Alors, comme le disait Jésus, il dit, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur œuvre. Alors, si le gars vous arrive, il est bien beau, il est bien vain, mais malgré tout ça, il ne peut pas s'empêcher de vous parler d'argent, de système monétaire, de système ci, de système ça, pas vous programmer comme disait Richard, pour vous dire quoi faire, quand, tout ça. On sait ça, on sait qu'est-ce qu'il faut pour vous et tout ça. Alors, vous pouvez prendre ça qu'un grain de sel. Moi, d'ailleurs, je ne me gêne pas.
Dans l'Évangile de Saint Matthieu, est-ce que c'est là qui fait allusion au figuier?
Pardon?
Si c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu qui fait allusion au figuier, quand le figuier apporte ses fruits, etc., etc.
Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est très bon. C'est que, dans le fond, la fameuse parabole du figuier, dans ce temps-là, le figuier était l'emblème de la connaissance. Alors, quelqu'un qui a des connaissances qui ne veut pas donner ses connaissances, donc ne donne pas de fruits, qu'il soit maudit, effectivement. Parce qu'il se sépare du monde, il se sépare du tout. On lui a donné pour qu'il donne et non pas pour qu'il a pour lui. Alors, en gardant pour lui, il fait exactement le travail de Satan. Alors, à ce niveau-là, c'est entendu que le grand monarque, symboliquement, on parlait d'égrégore tantôt. C'est remarquable de constater que le pape, je pense, je ne sais pas quelle ville exactement, il a invoqué 3 fois le Dieu de la paix. Mais le Dieu de la paix, c'est bien spécifiquement dit, dans le, par exemple, dans l'Épître de Saint-Paul, il parle du Dieu de la paix qui va venir au temps des gentils, tout ça, là, à la fin des temps, parce que les gentils comme tels n'existaient pas vraiment du temps de Jésus-Christ. Il y avait les Juifs, et le christianisme ne faisait que commencer. Alors, il y avait aussi une allusion à la fin des temps, que tout Israël serait sauvé. Et ce Dieu de la paix-là était un être qui avait apparemment vu la lumière, comme on disait symboliquement. Et alors, il était un avec le tout. Il y a plusieurs millénaires. Alors, c'était avant les temps de la création biblique. Alors, quand Jésus disait « avant que le monde fût, je suis », c'est l'allusion à ça. C'est avant les temps bibliques officiels. Parce que c'est évident qu'on ne peut pas trouver de preuves de ça dans les livres d'histoire officielle. Et justement, ce que je pourrais appeler la grande organisation internationale qui nous prépare un petit peu tout, là, ont évidemment le contrôle aussi sur ces choses-là, c'est-à-dire les livres d'histoire officiels. Alors, c'est dans ce sens-là que quand le personnage va apparaître, il va vraiment amener la manifestation de l'aspect supérieur de la science qui nous relie à la mystique, proprement dit. Et on va accepter que les moyens inhabituels de communication soient finalement aussi scientifiques que ce qui est présentement mesurable seulement par des appareils. Alors, le grand monarque, dans ce sens-là, c'est évident qu'il est beaucoup plus qu'un être de chair, mais c'est évident aussi que ça prend un corps physique pour, à un moment donné, qu'il y ait un passage. Mais c'est bien dit aussi dans l'Ancien Testament, surtout dans Isaïe, qu'apparemment, il ne sera pas reconnu dans les premiers temps. Il va être, comme on dit, traité comme rien, il va être barouetté d'un bord puis de l'autre, comme on dit. Là. Et essentiellement, c'est que le personnage va lui arriver des choses assez particulières. Apparemment, on ne peut pas dire s'il va être défiguré ou quoi que ce soit, mais définitivement qu'il va lui arriver quelque chose qui fait qu'il n'y aura plus un visage humain, comme on dit. Alors, je pourrais peut-être faire un parallèle. On regarde le film E.T. par exemple. Évidemment, E.T. n'a pas un visage humain proprement dit. Je ne veux pas dire non plus que ça va ressembler à E.T., mais qu'est-ce qui est évident, c'est que le personnage va être reconnaissable à la fin de tout, de toutes ses épreuves, de toutes les épreuves aussi que l'humanité a reconnues, par un fait très simple. Alors, c'est la raison, d'ailleurs, du symbole sur la couverture. Regardez le cavalier sur cheval blanc. Vous avez remarqué, c'est pas une tête qu'il y a. C'est une boule de lumière. Alors, évidemment, c'est une exagération. Mais c'est quand même une exagération voulue pour bien montrer l'essentiel. Alors, c'est là qu'on va leur reconnaître le grand monarque. Alors, moi, je ne pose pas de questions.
Pourquoi l'avoir placé sur un cheval, justement, le grand monarque?
Parce que c'est une allusion directe au cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse. Et c'est cet être-là qu'on relie, bon, disons-le, on en a déjà parlé d'ailleurs, on parle du temps, les temps d'autrefois. Donc, on parle plus ou moins d'une façon voilée de le temps du continent qui un jour se dressait entre les deux mondes, le nouveau et le vieux, et l'Amérique et l'Europe, c'est-à-dire l'Atlantide. Alors, c'est remarquable parce que cet être-là, justement, était... En quelque sorte, si vous voulez, même s'il n'avait plus, à un moment donné, de corps physique proprement dit, il pouvait toujours vivre sur le plan éthérique et s'incarner périodiquement. Alors, on retrouve une curieuse liaison avec la tradition hindoue qui parle des avatars de Vishnu. Et que, à un moment donné, pour l'incarnation qui correspondait à la naissance de Jésus, il parlait, Jésus-Christ de l'an 0, ou l'an moins 6 plus précisément, on parlait d'une incarnation de Mleka Avatara, ce qui veut dire une descente parmi les barbares. Alors, c'est un petit peu méchant, mais c'est que, évidemment, on sait que tous les peuples qui ont une culture, surtout dans l'ancien temps, ils considéraient finalement les autres peuples comme barbares. Alors donc, c'était une descente de Vishnu, un des dieux de l'hindouisme, il ne faisait pas en Inde, donc dans les barbares de l'Ouest ou tout ça. Et le prochain, c'est le Kalki Avatara, qui justement, ça veut dire l'avatar au cheval blanc. Alors, c'est remarquable de voir l'universalité de cette tradition-là, qui nous explique aussi pourquoi dans l'Apocalypse on dit qu'il sera là, il est racheté pour tout peuple, toute langue, toute nation. Alors, c'est évident que, comme on dit, quand on veut parler d'un fait vraiment divin, on dit le bon Dieu le sait, le diable sans doute, nous on le sait pas. Alors, si le bon Dieu donnait l'explication au diable, tout de suite le diable se dépêcherait de parodier que le bon Dieu dirait. Alors, dans ce sens-là, c'est la raison pour laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu situer autre chose qu'une naissance, une incarnation physique destinée à recevoir l'être spirituel, qu'on pourrait appeler l'égrégore d'amour, parce que M. Proulx a parlé de l'aspect plus astral de l'égrégore, finalement. C'est que l'égrégore, fondamentalement, c'est tout ce qui est créé par la pensée des gens une totalité, un tout psychologique. Par exemple, on parle de les partisans des Canadiens. Alors, quand les gens font la vague, il y a quelque chose qui se dégage de ça. Alors, on pourrait presque dire qu'il y a un égrégore d'encouragement, si vous voulez, qui va circuler. Et effectivement, tous les joueurs le disent, c'est une sensation absolument indescriptible qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs dans la vie de tous les jours. Alors, cet égrégore-là, donc, serait un égrégore strictement sur le plan spirituel, qui est relié à l'esprit. C'est donc tout ce qu'il y a de meilleur en nous appelle cet égrégore-là, si vous voulez. Alors, c'est évident à ce niveau-là que le bonhomme ne pourrait pas être autrement quelqu'un qui travaillerait dans l'intérêt du tout et non pas de quelques personnes ou pour faussement dans l'esprit de nous faire croire qu'il le ferait paraître le royaume mécanique, il ferait paraître un royaume de la matière. Mais le Christ a bien dit, mon royaume n'est pas de ce monde.
Est-ce que justement le peuple, dans le désarroi des derniers temps, ne créera pas de toute pièce un égrégore qui va se matérialiser dans un individu qui ignore probablement déjà aujourd'hui qu'il sera le grand monarque? C'est-à-dire que l'égrégore, c'est cette manifestation provoquée par l'esprit d'une foule et qui tombera sur la tête de quelqu'un comme le Christ au baptême dans le Jourdain. Pouf, la lumière est arrivée, puis celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets ma complaisance. Est-ce qu'il n'y aurait pas un destin qui arrivera lorsque le temps sera venu, et le temps sera venu seulement lorsque le vase sera rempli et au moment où il va déborder, parce que le peuple en aura par-dessus bord des
unités. La coupe du mal va déborder, comme on dit.
C'est ça. C'est seulement à ce moment-là que l'événement va se produire.
Voilà. Et ce serait une espèce de contrepoids qu'est-ce qui se produirait en Europe et dans le reste du monde. Parce que c'est bien dit, je n'ai pas donné ce détail-là encore là, aujourd'hui, on avait déjà parlé aux conférences l'année dernière, on parlait de nouvelle guerre sainte islamique. Alors, au nom de l'islam, au nom de Allah qui est leur dieu à eux, ils vont faire des choses qui sont exactement l'inverse de la loi divine, qui dit « aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même ». Alors, ça, dans toutes les traditions, d'une façon ou d'une autre, vous retrouvez ces deux commandements-là. Que vous soyez en Inde, en Chine, en Afrique, en Europe, peu importe. Alors, c'est la loi universelle, finalement. Alors, c'est évident que si on dit, par exemple, « rendez les offenses que vous avez reçues », alors, par exemple, en Iran, vous savez qu'on est extrêmement imputable à ce niveau-là, vous volez, on vous coupe une main, vous faites même une embrassade en public, apparemment c'est du fouet, 20-50 coups de fouet, je pense, pour un bec en public, en tout cas. Des fanatiques comme ça. Alors, c'est plate à dire un peu, mais on voit clairement dans l'Astralonus qu'au moment où l'Europe s'en attendra le moins, où elle va être dans le merdier, si vous me permettez l'expression du point de vue économique, ils reçoivent la claque de l'islam. Alors, la claque de l'islam au sud, et on peut comprendre, comme on le voit dans l'Astralonus, il parle d'une invasion en Allemagne, en Autriche, ce qui laisse entendre que le pacte de Varsovie ne restera pas inactif. D'ailleurs, l'Astralonus parle d'un grand mur qui saute, à un moment donné. Alors, on peut penser peut-être au mur de Berlin. Alors, c'est assez étrange, M. de Sabato a parlé dernièrement de cette chose-là dans son dernier livre. Alors, je me demande d'où est-ce qu'il tient ces informations, parce que c'est très précis qu'est-ce qu'il dit. C'est remarquablement analogue à ce qu'on peut voir dans l'Astralonus. Alors, ce qui est évident, c'est que si ça arrive, c'est qu'on va savoir que le temps est venu pour ce qu'on appelle les temps de l'abomination de la désolation, pas seulement dans le sanctuaire symbolique, parce que c'est évident qu'à ce moment-là, Jérusalem aussi, la Jérusalem de l'Orient, va y goûter. Alors, toutes les assises politico-économiques, spirituelles vont être complètement bouleversées, et on peut dire que d'une certaine façon, un système d'inspiration pas véritablement nécessairement communiste comme on l'entend, là, mais islamique, si vous voulez, là, serait instauré surtout, évidemment, dans le sud de l'Europe, parce qu'on sait quand même que l'Espagne, entre autres, est un lieu qui est encore très touché. La marque de l'islam est encore bien présente là. Alors, on peut dire qu'à ce niveau-là, il y a encore un égrégore, si vous voulez, de peut-être de... Comment est-ce que je pourrais dire? Un égrégore passif, peut-être, mais un égrégore quand même. Ce qui veut dire que dès qu'ils arrivent là, il peut se produire de quoi? Alors, Nostradamus est très clair. Il indique que le personnage, à un moment donné, il va rassembler tous les dispersés de Juda symboliquement. Le rassemblement commence en Amérique du Nord, et c'est des gens de les deux Amériques, ça semble très évident aussi. Et ces gens-là se rassemblent autour de ce personnage-là. Alors, Nostradamus, il l'a décrit indirectement. Il l'appelle le Gallic Ognium. Alors, Ognium, ça vient de Ognios. L'Ognion, c'est un personnage celte dans la mythologie, qui était une synthèse de Hercule et Mercure. Et ce personnage-là est très particulier. Son visage n'est plus celui d'un humain. Il a comme un visage noirci, un peu, là, à l'apparence, mais un peu comme, par exemple, quand vous regardez quelqu'un derrière une source de lumière, vous avez comme l'impression que son visage est noir, parce que vous ne le voyez pas, finalement, là, vraiment. Alors, comme moi, là, je vous vois, là, mais j'ai la lumière en plein dans les yeux, alors je ne vois pas la chair blanche, comme vous verrez, là, face à face en lumière. Alors, donc, ce personnage-là, évidemment, irradie la lumière. Et le symbole est très clair, il a sur le dessin une corde d'ambre qui se rattache le bout de sa langue aux oreilles de tous les gens qui le suivent. Alors c'est un symbole, je pense, très clair. Son verbe les rassemble tous. Et ils vont être, ces gens-là, combien, on ne sait pas. Comment ils vont se rendre au bord, on ne sait pas encore non plus. Quoique il y a des hypothèses très intéressantes là-dessus, comme la ressurgence d'un continent blouti, qui aiderait à passer le côté plus facilement, ça peut être de la fantaisie, donc c'est pas ça l'essentiel. Mais l'important, donc, c'est que ce personnage-là rassemble tous les dispersés de Juda symboliques, qui sont en fait ce qu'on appelle la tribu royale de Juda. Alors, on sait que le Christ, Jésus, en fait, venait de cette tribu-là.
Le passage de l'étoile chevelue. Le passage de l'étoile chevelue, oui, c'est pour bientôt, ça, c'est 86.
Oui, évidemment, c'est la plus connue, alors on peut supposer qu'il pourrait se poser des choses. De toute façon, déjà, il y a des indications très claires dans les fameux almanachs de Nostradamus, dont on a parlé, les choses comme ça. Alors, pour les gens ici qui sont pas au courant, on a parlé l'année dernière en conférence de certaines données inédites de Nostradamus qu'on retrouve dans les almanachs. Il y en a un ici à Montréal, en particulier, qui nous parle de données très, très, très précises et qui nous ramène justement à des éclipses. Et il indique clairement que il y a quelque chose, il y a un personnage qui apparaît au grand jour dans un contexte où, je pense que le symbole est très clair, siège à Christ molesté. Une façon parabolique de parler, évidemment, de ce qu'on appelle le Saint-Siège, le Vatican. Alors, la chaire de Saint-Pierre, si vous voulez. Mais ce qui est évident, c'est que les événements qui préparent cette chute du Saint-Siège-là auraient déjà, si vous voulez, une forme visible aux yeux des gens qui lisent et comprennent qu'est-ce qui se passe. Quand je dis lire, je parle évidemment de lire les informations qu'on voit, mais aussi lire entre les lignes. Alors, ce personnage-là, là, qui arriverait, ce ne sera pas le grand malade. Parce que Nostradamus dit, sur le plein jour, au moment du dépôt du soleil, alors il dit donc, sur le plein jour, le monstre sera vu. Tout autrement, on l'interprétera. Le loup qui s'est passé pour un ami ou quoi. Alors, le loup peut très bien avoir une très belle pelure d'agneau, c'est-à-dire, il va séduire les gens et tout ça. Mais peut-être aussi que, pour nous, les Occidentaux, on verrait qu'il se produirait. On dirait, ils sont fous, ils sont en train de perdre la boule. Parce que, il dit en plus, dans les quatrains, siège à Christ molesté, gentil, étrange. Parce que les gentils, c'est pas les juifs proprement dit. Puis, même dans le temps où on parlait des gentils, l'islam n'existait pas encore. Alors, les gentils, ça doit donc désigner la chrétienté. Ah, c'est grave. Donc, c'est la chrétienté qui abat le siège, finalement. Alors, il faut qu'il soit passé quelque chose de grave à Rome, comme un scandale énorme qui compromettrait définitivement dans les consciences des gens le Vatican. Sous d'autant plus qu'on sait qu'il y a déjà eu des scandales qui se sont produits. Alors, le grand monarque, finalement, dans tout ça, il arrive justement un peu après ces événements-là, parce que, comme on le dit, il est la gloire crépusculaire de l'Occident. Il se trouve à amener la perspective prophétique du christianisme, c'est-à-dire l'esprit de la vérité qui se manifeste, tout simplement. Le défenseur, l'Esprit Saint promis par Jésus. Alors, cet Esprit Saint-là, on le retrouve dans l'Apocalypse. Il est celui qui monte le cheval blanc. de l'Apocalypse.
Comment ça se fait qu'on revient toujours à parler du Christ dans la tradition qui rejoint même l'Asie?
C'est simplement que le Christ, comme il disait lui-même, il n'était pas venu pour seulement certaines personnes, il était venu pour tout le monde. Mais la tradition, dans ce sens-là, quand elle était universelle, elle était universellement répandue, elle était une, comme on dit, la loi une, comme on dit. On les appelait dans le temps de l'Atlantide, je crois, les fils de l'unité, ou peu importe. Enfin, c'était les gens, finalement, qui savaient que il était essentiel de dominer notre partie animale inférieure, qui fait notre personnalité dans son aspect, qui peut être aussi bien positif que négatif. Alors, il fallait dominer ça, donc, et penser toujours au bien du tout. Alors, c'était finalement, si vous voulez, le véritable communisme. Mais dans le fond, si on étudie la vie de Jésus, dans les évangiles, on voit que dans le fond, sa vie, c'est un peu comme une sorte de communisme spirituel. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es plus avancé que quelqu'un d'autre sur le sentier que tu es obligé de l'écraser, comme dans le capitalisme. Alors, le capitalisme, c'est peut-être ça son pôle négatif. Il nous donne effectivement la liberté d'agir, mais ceux qui ont la force, si vous voulez, c'est-à-dire le capital, la capacité de le faire fructifier, eh bien, trop souvent écrasent les gens. Alors, c'est évident qu'à ce niveau-là, dans ce temps-là, ça n'existait pas. Alors, au début de ce qu'on appelle l'ère de décadence, l'âge sombre, qu'on appelle l'âge de fer, traditionnellement, ça commence, ça dure environ 6500 ans, là, en chiffron, là. Alors, ça doit finir quelque part dans le prochain siècle. Alors, ou à la fin du présent siècle. Donc, ça aurait commencé entre 4500 avant Jésus-Christ. Et assez curieusement, c'était aussi l'époque où l'ère du taureau commençait. Alors, c'est drôle parce que le taureau, à ce moment-là, avait une relation avec les étoiles polaires, deux étoiles polaires spécifiquement qui étaient reliées au dragon. Alors, le taureau étant le signe de la matière, le dragon étant le pôle à ce moment-là de la Terre, ça voulait donc dire que c'était la polarisation nécessaire. Il fallait donc mettre dans la forme des principes divins pour que l'humanité apprenne à les retrouver pour, justement, éventuellement un jour se libérer. Mais là, comme on le comprend bien dans l'Apocalypse, le dragon se révolte contre l'ordre cosmique. C'est-à-dire qu'il désire maintenir sa mainmise qu'il a eue il y a 4-5 000 ans, c'est-à-dire, je m'excuse. Alors, donc, symboliquement, le dragon, ça serait justement relié au prince de ce monde, l'organisation collective qui va justement tenter de maintenir les consciences dans la matière pour les empêcher d'en sortir. Ils ne pourront pas vraiment le faire parce que, on dit, si on pousse dans un sens, il y a toujours une contre-réaction. Alors, c'est ça qui va arriver effectivement. Mais il y a beaucoup de gens, quand même, je pense, qui vont tomber dans le jeu. Ils vont se laisser séduire, si vous voulez, par le serpent, symboliquement, ou le serpent ou le dragon, c'est la même chose ici. Alors, c'est évident que ce symbole-là est un symbole qui est très ancien, qui nous rattache maintenant à la connaissance de l'âme humaine, autant dans ses aspects supérieurs qu'inférieurs. Alors, souvent, on dit que cette tendance-là, si vous voulez, se manifeste d'une façon... ils disent, on va faire ça, on va pousser le mal à son comble, et là, après ça, le monde spirituel va basculer, et les démons vont être vaincus par le bien. Ouais. Mais on peut voir dans Nostradamus que c'est écrit très clair qu'il y a certains sages à ce niveau-là qui vont plutôt tenter de maintenir la porte fermée, si vous voulez. Alors, c'est là que le grand monarque arrive. Et en quelle année, on ne peut pas dire vraiment. On peut suggérer, comme je l'ai dit, dans les débuts des années 90, il y aurait des graves bouleversements. La nature, comme on dit, les cieux, les puissances des cieux seront ébranlées, tout ça. Je n'ai pas pu fixer de date parce qu'évidemment, c'est bien dit, nul ne sait le jour ni l'heure sauf le Père. Je ne suis pas le Père, évidemment. Parce qu'il y en a un qui va arriver un moment, il va vous le dire, il ne gênera pas. Il va dire, je suis l'envoyé du Père. Tout ce que je dis, c'est comme si le Père parlait. Il ne gênera pas, du tout.
Il y aura de faux messies ici et là. Tout le monde ira penser qu'il y a un messie dans le désert là, ou il y aura un messie en France, ou il y aura un messie aux États-Unis. Et puis ils font des miracles jusqu'à troubler les
cellules
humaines.
C'est ça. Mais on peut même supposer qu'il y aurait une monstruosité technologique utilisée. On sait qu'avec l'ordinateur, on peut créer des images. Alors, il pourrait très bien avoir des acteurs ou des comédiens engagés, comme on dit, là. Évidemment, pas des comédiens professionnels, mais des gens reliés à cette organisation-là. Imaginez-les un peu, là, devant une scène en la nature. Alors, ces gens-là feraient semblant de s'extasier devant des scènes, ils ne surviendraient pas réellement. Mais lui, le gars, là, ferait des miracles, comme il ferait, par exemple, ferait tomber la foudre du ciel, il ferait pousser des choses, il ferait tomber la foudre sur un arbre, juste à son commandement et tout ça. Il ressusciterait des morts en apparence. Évidemment,
rien de tout ça se passerait, mais on verrait l'image de ça. Il y a aussi une autre indication qui est très claire, je pense, c'est quand on parle de la bête qui va faire revivre l'image de la première bête. Parce que la bête n'était plus, mais le principe qui était là revient. Alors, j'ai juste hésité d'en parler. Mais non, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est un principe qui est relié à la puissance du dragon. Alors, cette puissance-là, on l'a reconnue d'une façon très claire dans la voix, dans le message, dans le corps éthérique d'un bonhomme qui était absolument ordinaire dans la vie de tous les jours, mais qui devenait comme un archange lors de ses discours en Allemagne des années 30 et 40, Adolf Hitler. Alors, le prochain personnage pourrait ressembler symboliquement à Hitler dans le sens qu'il serait un médium d'une puissance absolument monstrueuse, il faut le dire. Monstrueuse dans le sens où cette puissance-là, pour la puissance comme telle, c'est un attribut divin quand même, la puissance. Mais si c'est uniquement tourné vers la matière, à ce moment-là, c'est en quelque sorte ce qu'on appelle la magie noire. Alors, on sait à quel point ces symboles-là étaient importants dans l'Allemagne hitlérienne. Les bagnons noirs et rouges, hein, comme on dit, les forces de l'ombre et les forces sanguinaires, comme on dit symboliquement. Alors, ça n'était pas du tout aussi les forces de ce qu'on appelle la lumière rouge, qui est la lumière, le fondement finalement, là. C'est l'homme primordial Adam de la Kabbale. Alors, c'est un rouge beaucoup plus symbolique, c'est-à-dire beaucoup plus tangible. Alors, ces forces-là pourraient se manifester à nouveau, d'autant plus que le danger, présentement, c'est que les gens, justement, qui n'arrêtent pas de penser, ça va mal, ça va mal, ça va aller mal, ils ne croient pas. C'est là, justement, qu'ils font le jeu des forces de l'ombre. Ils favorisent la montée de cette force-là, de cet égrégore-là. Alors, dans ce sens-là, effectivement, on peut dire que M. Gilbert, quand il parlait des contacts avec les morts, il n'y a aucun doute, c'était cet égrégore-là qu'on pourrait appeler véritablement un vampire collectif, qu'on pourrait relier justement à quelque chose de très précis dans l'Apocalypse. Alors, je vais vous donner la petite histoire. C'est que Karl Aschoffer, c'est un bonhomme, ça, qui était un conseiller de la société Thule, qui a présidé à peu près l'élaboration de tous les plans géopolitiques de l'Allemagne nazie. Alors, ce bonhomme-là avait un fils qui était poète et bar, puis aussi clairvoyant. Enfin, son fils, on l'a retrouvé à un moment donné fusillé, parce qu'il avait participé à un complot pour faire assassiner Hitler. Ça n'a pas marché, comme on le sait. Et il a écrit « Pour mon père, le destin avait parlé. Il dépendait, lui, de repousser le démon dans sa jungle. Mon père n'a pas senti le souffle du malin. Il a lâché le démon de par le monde. » Ça ne vous fait pas penser à un des sauts de l'Apocalypse où le démon est, Satan est libéré de sa prison. Alors, c'est évident que, encore là, c'est peut-être un peu à dire, mais ça, c'est relié à certains aspects négatifs de l'antique magie orientale, qui est une magie noire ici. Alors, à ce niveau-là, on pourrait suggérer que le prochain personnage serait un personnage totalement supporté par ces sociétés secrètes orientales qui ont des assises ici en Occident, et qu'il y aurait une assistance, évidemment, avec ce qu'on appelle les rois de la Terre, là, les gens qui mènent le tableau, mais que, assez paradoxalement, ils peuvent avoir puissance d'action que sur les gens qui sont polarisés sur l'égoïsme. Les gens qui ont quelque chose d'enfant, eux, ne peuvent pas vraiment agir sur ces gens-là. Et où est-ce que vous pensez qu'on les trouve, ces enfants-là, symboliquement? Plus qu'ailleurs, peut-être. Aux États-Unis, au Canada, au Québec. Et quand on parle du Québec, c'est une chose qu'on a définie à plusieurs endroits, mais que le Québec, en quelque sorte, était une espèce d'enfant sur le plan collectif. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait que le Québec n'est pas le Québec français, le proprement dit, mais une terre, si vous voulez, où l'égrégore, justement, d'amour peut se développer sans danger. C'est-à-dire que le danger, ce n'est pas que l'égrégore d'amour soit détruit. Ça ne peut pas être détruit. Ça peut simplement disparaître de notre conscience. Alors, l'égrégore de haine, symboliquement, ne pourra pas vraiment empêcher la manifestation de l'égrégore d'amour. Mais on dit souvent, les égrégores, c'est exactement comme un balancement des plateaux de la balance. Plus vous mettez du mauvais, plus l'amour va travailler pour contrecarrer les effets de ça. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir comme une purge, si vous voulez. En Europe, justement, la purge va être assez féroce. Je parle de purge physique, évidemment, et aussi astrale, si on peut dire. C'est pas agréable d'en parler, mais d'un autre côté, on se dit, Jésus lui-même l'a dit, il y a un tas de malheurs qui arrivent avant la parousie. Alors, je n'invente rien, finalement. Évidemment, j'ai souligné des noms de lieux, j'ai souligné des dates, mais je n'ai jamais pu trouver de quatrain dans Nostradamus où il y avait un nom de personnage, une date et un lieu. C'est là, comme je vous disais tantôt, que là, la main du diable aurait pu parodier encore qu'est-ce qui était vraiment destiné à arriver. Parce que finalement, la volonté d'en haut se manifeste d'une façon qui ne dépend pas de notre conscience, mais plutôt de notre supraconscience. Ça ne peut pas être quelque chose qui peut être contrôlé par notre conscience ordinaire, sinon on serait égal à Dieu d'une façon charnelle, et Dieu est tout. Alors, on ne peut pas...
Vous parliez de la bête un peu à l'image d'Adolf Hitler. Vous savez que depuis quelques mois, on entend parler de scandales de néo-nazisme à travers le monde, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Canada et même le Québec.
On en a parlé l'année dernière. J'avais souligné que la configuration de 87 était très critique à ce niveau-là. Il y avait les étoiles de l'ours, du dragon et du scorpion, qui était très important dans une structure vers l'été 87. Et c'est évident que le scorpion, dans ce sens-là, va rejoindre énormément le fanatisme de certains dirigeants de l'islam. Alors, on sait que l'islam sont des nouveaux rois de la terre. En fait, pas tous, mais je dis l'islam, c'est pas juste. C'est plutôt certains pays arabes islamiques. Alors, c'est évident que cette manifestation-là, elle est très difficile à supporter pour les gens de l'Europe parce que ils ont, en quelque sorte, un peu perdu la foi, finalement. Le Christ a bien dit, ayez la foi, vous serez sauvés. Mais là-bas, on ne parle que de sauver les avantages matériels. C'est bien de valeur, mais c'est là que la bête a pu, symboliquement, a pu sans action sur eux. S'ils rejetaient ces choses-là, il n'y aurait aucune difficulté. Alors, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Je pense que les plus clairvoyants qui restent en Europe vont se rendre compte que, effectivement, l'égrégore d'angoisse qui amène la haine, si vous voulez, là, ici, comme un aimant, si vous voulez, eh bien, va être trop fort pour être combattu d'une façon, je dirais, valable. Alors, donc, ces gens-là vont s'en venir ici. Alors, c'est là qu'on va avoir un brassage extraordinaire au niveau culturel, au niveau social. On va se retrouver, à un moment donné, avec des gens qui ont beaucoup d'expérience, des choses intellectuelles, des choses de l'esprit, mais qui manquent peut-être un peu de l'innocence des enfants, comme on dit. Ce qu'on retrouve en abondance, ici. Ça, je pense que c'est clair. Non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Bon. Alors, c'est ça qui va se manifester. Ces gens-là, on va leur donner notre cœur, eux vont leur donner nos connaissances. Alors, il va y avoir une fusion, et c'est là que le symbole-là est très précis à ce niveau-là. Les quatre listes en bas auraient dû être blancs, selon l'ordre des choses dit logique. Tandis que les trois listes, qui sont d'or, en principe, pour les blasons des rois de France, sont blancs. Alors, effectivement, comme je l'avais dit la semaine dernière, le lys blanc a été, le lys d'or, pardon, français, a été saigné à blanc. C'est un jeu de mots, si vous voulez. Mais en réalité, bien davantage que ça, ça veut dire que le lys d'or, maintenant, qui est au Québec, symboliquement, d'une façon non encore manifestée tangiblement, c'est-à-dire que le grand monarque n'a pas encore été reconnu, eh bien, c'est le sang royal dont on parle dans les quatrains d'Astradamus, comme on disait la semaine dernière. Le sang royal sera si très mêlé, contraints seront Gaulois de l'Hespérie, et une donnée très importante, l'Astradamus, qui est un homme de souche hébraïque, connaît parfaitement les arcanes de la Kabbale, et il donne le numéro 440 à son quatrain, qui parle du sang royal. Le 44 est justement le nombre de Dam, le sang en hébreu. Et ça nous ramène aussi à Adam, d'une certaine façon, l'homme primordial, l'homme rouge. D'ailleurs, le Sérénomiste l'appelle, le grand monarque, aussi le jeune roi rouge. C'est-à-dire l'être primordial en qui toutes les qualités divines sont condensées. Et le sang est un grand véhicule de ces qualités-là. D'ailleurs, on dit souvent que une personne en bonne santé, qui a aussi une bonne âme, un bon sang, et ça peut opérer des miracles dans une personne qui est de nature peut-être dépressive, et cette personne-là, tout d'un coup, a la joie de vivre. Alors, donc, le numéro est très édifiant à ce niveau-là, parce que le sang royal, le sang royal, ne s'en porte pas à plusieurs endroits dans les centuries. Et en plus, il reliait les Gaulois de l'Hespérie à ce sang royal-là, alors c'était clair. Mais c'est quand même surprenant, c'est étonnant, et en même temps, est-ce que ça ne rejoint pas la Bible? J'ai déjà bien dit, à la fin des temps, il y a des derniers qui deviendront des premiers, et des premiers deviendront les derniers. Les derniers, c'est quoi? C'est les anges. Les premiers, c'est les puissants. Alors, les uns vont devenir puissants par Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont enfin vivre une vie de justice où l'argent ne sera pas le facteur essentiel. Autrement dit, si vous voulez, ce ne sera même pas le facteur. En ce niveau-là, Paracelse, c'est très précis, il dit « Combien nous serons apaisés quand aura disparu le besoin de compter et d'allier des chiffres? » C'est pas la comptabilité, ça, d'une certaine façon, qui se fait partout. Où que vous alliez, il y a de la comptabilité. Dès que vous sortez une pièce de votre poche, il y a de la comptabilité. On peut pas l'éviter. Alors, un jour, donc, ce serait le contraire. C'est que l'argent serait considéré pour ce qu'il est, un moyen d'échange sur le plan matériel qui est subordonné au plan spirituel. Point. Mais, finalement, le principe des puissants qui sont rabaissés, c'est évident qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y aurait une instauration d'un système en relation avec le grand ménage qui serait manifesté, qui se ferait spontanément. Et comme c'est bien dit, tout Israël sera sauvé. Et le Dieu de la paix, dans Saint Paul, une des épîtres, éloignera les impiétés de Jacob. Jacob, c'est l'autre nom d'Israël. Alors, on sait, bon, on dit souvent en blague, les Juifs font de l'argent, ils sont des. Alors, on peut peut-être comprendre que certains d'entre eux sont impies présentement, c'est-à-dire ils considèrent ceux qui ne sont pas des Juifs ou des gens éduqués comme des gens dignes d'intérêt. Alors, lors de la manifestation de ce grand monarque-là, les impies vont se réveiller, vont se dire, c'est vrai, dans le fond, on perdait du temps. On retardait quelque chose qui, de toute façon, ne peut pas être empêché.
Et quand ils disent, tout Israël sera sauvé, ce n'est pas simplement la terre d'Israël en Palestine.
Là. C'est ça.
C'est le peuple.
Tout le peuple d'Israël, c'est-à-dire tout le peuple de Dieu, finalement, symboliquement. Et tous les gens qui ont dans le cœur les commandements divins. Or, on sait que, d'une certaine façon, le lys étant un emblème royal spirituel, et que cet emblème royal spirituel est directement relié au roi messianique dans l'Ancien Testament, et que le roi messianique est le roi de la terre sur le plan spirituel, je ne dis pas le roi de ce monde, mais le roi, l'ordonnateur de la vie, comme on dit, l'Emmanuel d'Isaïe. Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, effectivement, les puissants vont arriver devant ce personnage-là, puis il va dire quelque chose, il va être ce qu'on appelle le chakra varti, le maître de la roue, le centre immuable de la roue. Il va être un peu comme dans le tarot, l'empereur. Symboliquement, l'empereur est sur la pierre cubique, la pierre d'angle. Il est l'esprit par lequel tout se manifeste. Évidemment, quand je dis l'esprit, le corps physique est là, mais son corps physique ne va émaner que des choses spirituelles.
Il retourne vers l'Europe.
C'est ça. Il ramène tous les dispersés de Judas et ils vont, comme ils disent dans Isaïe, ils vont piller les fils de l'Orient. Or, c'est incroyable parce que les fils de l'Orient, entre autres, surtout à l'époque de Nostradamus et même un peu avant, dans le temps de la Bible, c'était entre autres ce qu'on appelle aujourd'hui les pays arabes, finalement. Alors, ça, c'est très clair à cet égard-là. Nostradamus dit aussi, par espérer la cause redressée en parlant du retour des choses, mais surtout, l'empire arabe revalera son cours. L'empire arabe, ça veut dire qu'il y aurait eu un empire arabe de former. Alors, on peut supposer que cet empire-là couvrirait toute l'Afrique, toute l'Europe du Sud, et évidemment, les pays d'Asie du Moyen-Orient. Alors, même une partie de l'URSS va tomber sous la coupe de ça. Tout le Sud, la frontière commune à l'Afghanistan, on sait que c'est extrêmement islamisé. Alors, l'URSS va perdre cette zone-là, vraisemblablement. Alors, c'est là qu'on voit que les maîtres occultes de la planète, finalement, nous laissent penser des choses, ils nous font penser aux Russes beaucoup, mais c'est oublier l'essentiel, cette foi islamique-là, qui, dans son fanatisme, est en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler un déliment de Satan, symboliquement, si je peux le dire comme ça.
Et une fois retourné dans l'Europe, il va aboutir justement à Jérusalem.
Évidemment. Alors, c'est là que se passent des choses. Et j'en ai pas.
Là, on est dans les années 1999, à peu près.
Ça sera plus probablement vers la fin du siècle. Mais à ce niveau-là, j'en ai pas de certitude. Je vous dis bien humblement, il y a des dates, c'est évident. Mais comment relier le fil complet de tous les événements? On peut pas le savoir.
L'an 1999,
7 mois. Oui. Ça, c'est très intéressant parce que, c'est un fait, je ne l'ai pas suivi dans le livre, malheureusement. Mais j'avais déjà suivi la semaine dernière. Rapidement, que le 314e quadrille de Nostradamus nous parlait d'un personnage puissant par Dieu. Alors, 314, on avait dit que c'était la valeur de Dieu Tout-Puissant, et je n'avais pas dit aussi que c'était la valeur de Métatron, qui est l'ange de Yahvé. C'est l'esprit de supplication d'Israël, finalement, l'Esprit Saint. Alors, le quadrille de la centurie 10-72, c'est aussi, à partir de la centurie 7, qui est une centurie très particulière, comme on sait, qui, au lieu d'avoir 100 quadrilles comme toutes les autres, en a 42. Alors, si on compte à partir du début de ces centuries-là, le quatrain qui parle de 1999 c'est moi, est aussi un 314e quatrain de cette finalité-là de la prophétie Nostradamus, qui se concentre justement sur le grand monarque.
Et les 58 qui manquent sont rendus.
Pardon?
Les 58 qui manquent.
Bon, Les 58, on a pensé qu'à un moment donné, il y avait des succès qui ont sont été publiés environ 40 ans après la mort de Nostradamus. On pensait que c'était de la même Nostradamus. Mais effectivement, c'est pas ça. C'est tout simplement dans certains des almanachs de Nostradamus. Il y en a publié une douzaine environ, en fait 13, entre 1555 et 1567. C'est-à-dire, dès qu'il a été célèbre par les centuries, un homme avisé qui s'est rendu compte qu'il y avait là une façon de diffuser des connaissances sans que ça paraisse, il s'est servi de ces almanachs pour mettre certains quatrains bien précis, avec des mois. Alors, j'en parle pour quelques-uns. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup, mais au moins, on a la clé. Qu'il y aurait 58 des 100 quelques quatrains hors des centuries qui compléteraient la milliade, comme dit Nostradamus.
L'histoire du faux prophète dont on parle dans les textes sacrés, c'est qui, ça, le faux prophète? Il accompagnera toujours la bête.
Moi, je pense, on en a parlé un peu tantôt, on parlait de la bête et le faux prophète dans l'Apocalypse. Ce serait le personnage, justement, qui utiliserait le même principe de puissance qu'avait adombré Hitler, finalement. Alors, c'est évident que c'est pas facile à dire qui, mais on peut suggérer une autre notion. C'est qu'à un moment donné, Nostradamus nous montre, même en même temps, je pense, par cette tournée de phrase-là, que pour lui, l'antéchrist, ce n'est pas nécessairement un antichrist. Parce qu'on sait que Jean-Baptiste vient avant le Christ, et ante, ça veut dire simplement avant. Alors, il dit, roi Reb, auront un si faux antéchrist. Et il parle de l'île d'Écosse et tout ça, bon, dans un contexte où on voit clairement qu'il y a une relation avec le fait anglo-saxon. Et probablement l'Amérique, parce que un autre quatrain qui est à peu près pareil par règne l'Amérique, clairement, comme ça, textuellement. Alors, si c'est un si faux antéchrist, donc, il va se faire passer pour un messie, c'est-à-dire l'annonceur du messie, ça va être le faux annonceur du messie, donc un antichrist, finalement. Alors, c'est difficile à dire. C'est peut-être parce que ça peut être un président d'origine allemande, par exemple.
Et on ne sait pas. Qu'arrive-t-il à ce grand monarque lorsqu'il aboutit finalement en Palestine, à Jérusalem?
Ah! Ça, les prophéties sont très claires là-dessus. On dit qu'il dépose la couronne de David symboliquement. Ça laisse entendre qu'un personnage, comme l'Israël se dit très bien, alors je vais vous le dire en une phrase, alors, le grand chien, c'est le grand monarque. Le gros matin, c'est le destructeur. Après le grand chien, sortira le plus gros matin qui fera destruction de tout. Alors, l'Astralimus le compare à Néron. Il dit « issu du pôtre de l'inhumain Néron ». C'est très clair. Il vient après ce grand monarque-là. Il dit aussi « siècle d'or mort, nouveau roi, grand esclan », c'est-à-dire des massacres en finir. Alors, le siècle d'or aurait été amené justement par le roi messianique d'origine des Espéries.
Donc, ce grand monarque-là, c'est pas le Messie.
Pas vraiment. C'est pas le corps physique, comme tel. C'est que le principe qu'il habitait, comme c'est bien dit, un peu comme, d'une certaine façon, il est arrivé avec Jean-Baptiste, il n'est pas reconnu comme tel. Et les gens passent dessus, comme on dit, passent par-dessus la
télé. Et après, il y aura comme une espèce de Néron, pendant un certain temps,
à la fin du temps, comme
après ce certain temps-là.
C'est ça. Là, c'est difficile, c'est malaisé. J'ai une hypothèse que j'ai présentée. Parce qu'on dit, la résurrection est survenue après 3 jours. Mais on sait très bien, et ça, je pense que les théologiens le savent très bien, les jours ne veulent pas toujours dire des journées. Par exemple, on dit dans l'épître de Saint-Pierre, une des épîtres de Saint-Pierre, ou la seule, je ne sais pas, enfin. Pour le Christ, 1000 ans sont comme pour un jour, ou un jour sont comme 1000 ans. Alors, vous voyez déjà que 3 jours peuvent être 3 000 ans.
Pour Dieu, pas pour le Christ. Pour Dieu.
Non, c'est bien dit pour le Christ.
Pour le Christ,
pour Jésus-Christ, pour le Christ, c'est ça. Pour le Seigneur.
Pour le Seigneur. Alors, un jour, c'est comme 1000 ans.
Oui.
Et 1000 ans est comme un jour.
Il y a d'autres possibilités. Une possibilité très intéressante, c'est qu'il y a un cycle qui était connu par les Hébreux, qui nous donnait des années, si tu veux, de 3 ans. Des jours de 11 ans. Et ces jours de 11 ans-là sont reliés à un cycle très précis de notre système solaire, où on appelle les tâches solaires. Et si c'est 3 jours, effectivement, ça pourrait être 33 ans, donc, à ce niveau-là. Et 33 ans, on dit, dans la tradition, c'est un nombre solaire qui nous ramène au Christ. Alors, si effectivement, il se passait quelque chose de dramatique vers l'an 2000, l'an 2033, ça c'est très clair dans Nostradamus, il dit, la terre ne s'inclinera plus au siècle des siècles, exactement comme l'Apocalypse finit en dit, et il régna avec le Seigneur Dieu au siècle des siècles. C'est le seul endroit que vous voyez ça dans l'Ancien et le Nouveau Testament, ce thème-là de siècle des siècles, en relation avec la fin des temps, et clairement, ça ne se finit plus la terre telle qu'elle est. La terre est complètement, elle passe à un niveau supérieur, si vous voulez. Et Si c'était 2033, ce serait extraordinaire parce que dans l'astronomie, il y a quelque chose qui nous ramène à cette date-là, astronomiquement. Elle ne dit pas le jour précis, l'heure, si vous voulez, là. On ne peut pas dire, évidemment, si c'est ça. Mais c'est, dans l'astronomie, il dit aussi qu'il se produit une perte d'infini âme à ce moment-là. Mais, ça va durer 3 mois et que, à la fin des 3 mois, au mois d'avril, une grande réjouissance et allégresse, ce qui se fait dans le monde. Comment ça peut se faire si tout le monde est en train de mourir physiquement, et le monde quand même sont joyeux? Au mois d'avril 2033, 2000 ans après une date historique.
Et dans les prophéties de Jean 23,
Il
termine ses prophéties en disant 2000 ans plus l'âge sauvage.
On peut se poser des questions.
Il termine avec Amen.
On peut se poser des questions sur ce texte-là, Richard. Mais il y a quand même un élément très intéressant que j'ai relevé dans le texte.
Quel âge on va avoir en 2033? Calculez ça. Si vous vous rendez jusqu'au mois d'avril en 2033, vous serez dans l'allégresse. Mais d'ici ce temps-là.
L'égrégore est éternel, oubliez-le pas. L'égrégore d'amour, c'est quelque chose qui est intemporel. C'est le verbe primordial, finalement. Mais la chose que je voulais dire en relation avec ce texte-là, c'est évident que ça peut être une prophétie manipulée d'une certaine façon. Mais le fait qui est quand même étrange, c'est que Nostradamus, qui nous donne quand même des données précises sur le personnage d'iniquité, s'il était vraiment de la main gauche, il ne l'aurait pas dit, il nous aurait fait passer le gars de la main gauche pour le bon gars. Alors, de toute façon, donc, qu'est-ce qui est intéressant dans ces petits textes-là, c'est qu'à la fin du texte de Pierre Carpi, je crois, qui attribue ça à Jean 23, disons, c'est un texte attribué à Jean 23, comme ça, on n'aura pas de problème avec personne, et il dit, à propos de Alcès, ne cesse pas de ramasser des fleurs blanches, parce que, même malgré le poids, tes bras s'allégeront parce que les gens vont les recevoir. Mais c'est drôle parce que Alcès, ou Alcès, c'est un autre des noms de Hercule. Et Hercule, le Saint-Louis, quand il en parle, c'est le grand Hercule d'Hercules, fleur de lys. C'est clair.
Est-ce qu'on peut parler des extraterrestres dans tout ce tableau des événements d'ici en 2033?
De manifestation d'énergie extraterrestre, définitivement. C'est certain. C'est bien dit d'ailleurs en plusieurs endroits. L'astronomie se dit entre autres, à un moment donné, le ciel de Lyon change subitement, soit de position ou aussi fort probablement d'apparence. Alors, Louis, justement, a publié un autre ouvrage qui s'appelait « Ils ont vu l'an 2000 » où on parlait clairement de ce changement d'apparence du ciel-là. Et pourtant, l'astronomie semble indiquer par clair ainsi et par étoile fixe. Donc, c'est la nuit qu'on voit ce changement-là. Mais ça ne vous fait pas penser à où on était avec la parousie? Parce que la parousie, on dit dans l'épître de Pierre, il viendra, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais les voleurs viennent quand? Ils viennent la nuit, d'habitude. Hein, alors, c'est des symboles, finalement, qui sont très clairs. Il y a toujours une indication de l'astronomie de choses à ce niveau-là, où, quand lors de ce contact-là, c'est évident qu'il y a une manifestation cosmique qui se produit. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est bien dit dans la Bible aussi, à ce temps-là de la fin, vos fils et vos filles auront des songes et prophétiseront. Mais pourquoi vos fils et vos filles? Est-ce qu'ils veulent faire entendre les rejetons de l'avenir, finalement, d'une certaine façon? Parce que c'est évident, je pourrais avoir un fils, ou ça pourrait être mon père qui meurt, on ne situe pas le contexte. C'est tout se passe comme si on voulait faire allusion claire à une génération nouvelle, une nouvelle race, si vous voulez. Et ça, à ce niveau-là, la tradition hindoue est très claire, et ils disent aussi que au temps de la fin, il y a une nouvelle race qui naît, qui descend des cieux, symboliquement. Alors, ça peut être cette manifestation extraterrestre, dans le sens où ce qui existe dans le cosmos se manifeste de façon encore plus claire, il va être tellement clair que ces gens-là qui vont naître vont travailler entre eux comme s'ils étaient un. Ils vont travailler donc dans l'unité de l'esprit. Alors, manifestation tangible extraterrestre, on n'en voit rien dans notre analyse de clair. Quoique, il y a des quatrains où il parle de choses qui viennent du ciel. Mais au vu de ce qu'on a vu dernièrement avec la guerre des étoiles, on pourrait penser que c'est plutôt ça. Et ça m'étonnerait que Nostradamus n'ait pas vu ça dans ses visions qui se préparaient, une guerre spatiale, par exemple, avec le mot du satellite, là, tout ça, là. En tout cas. C'est de l'argent jeté à l'eau, c'est une partie de l'expression. Mais ça, c'est voulu, ça. C'est justement, ça fait partie du plan de ces gens-là. Admettons qu'il y a des gens positifs dans ça, qui disent, ben, on va éclairer le monde comme faux, là. On fait toutes les stupidités qu'on ne peut pas faire pour justement forcer les bons à sortir leur bonté. Si dans le fond, c'est vrai. Si on reste assis sur le steak, comme on dit, on est bien, on a notre repas on a 3 repas par jour, on est bien, on a une bonne job, on a un emploi stable, on a une bonne famille. Mais on n'est peut-être pas appelé à aider nos frères et sœurs comme ça sur la planète. Tandis que si ça va mal, puis qu'on est touché un peu pour nous brasser, ben c'est là qu'on va se réveiller. Alors à ce niveau-là, c'est évident que quand on parle des impies d'Israël, qui préparent des manifestations, peut-être qu'il y en a certains qui vont justement vouloir nous faire croire qu'il y aura des manifestations d'en haut. Et des manifestations physiques, là, je dis. Et c'est évident que, c'est bien souligné d'ailleurs, les manifestations physiques peuvent se produire. On sait d'ailleurs que dans la mécanique quantique, ça c'est une chose d'ailleurs que la science moderne commence à reconnaître, le fait de dire que les planètes habitables dans les étoiles les plus proches sont trop loin pour qu'un être humain ait le temps d'arriver, ça n'est pas admis par la mécanique quantique. On peut admettre qu'il y a une nouvelle vitesse dans la vitesse de la lumière qui fait que le temps est plus court, le temps est raccourci, comme on dit. Alors, on ne peut pas d'ailleurs expliquer autrement le principe de la voyance. Alors, j'ai déjà comparé le principe de la voyance à un bonhomme qui a son cerveau, qui est à l'image du cosmos. Imaginez le cosmos comme un cerveau, et les étoiles, les neurones du cerveau, les cellules du cerveau, si vous voulez. Alors, si on admet que tout ça est uni en un tout, qu'on appelle Dieu, alors ce tout-là, qui est Dieu, le véhicule du tout, c'est le Verbe, et qu'est-ce qui manifeste le Verbe, c'est l'Esprit. Alors, l'Esprit serait relié à l'électricité, comme le Verbe serait l'âme du monde, comme on dit. Alors, cette âme-là, si vous voulez, il y aurait donc quelque chose dans le cerveau des voyants qui ferait qu'ils seraient capables d'accéder à cette dimension-là, si vous voulez, spirituel, ou comme on dit, on reçoit l'inspiration de l'esprit, et là, ils sont connectés à des mondes que nous, c'est-à-dire, on ne recevra pas les émanations avant 20, 30, 40, 50 ans. Et par contrepartie, il y a peut-être des émanations qui sont déjà arrivées depuis longtemps, mais qu'eux peuvent revoir, comme dans une vidéo. Ça expliquerait à la fois le principe de la voyance et des manifestations extraterrestres, parce que, finalement, donc, le temps est, en quelque sorte, illuminé dans certains cas.
Monsieur Maurice Poulain, qui est sorti d'un sous-sol de maison, alors que personne ne vous connaissait ou presque, et qui aujourd'hui vous avez écrit un livre, vous êtes demandé en France, pour des conférences là-bas, qu'allez-vous transmettre à des Français là-bas sur Nostradamus?
Ils vont beaucoup apprécier, je pense, parce que c'est une chose, d'ailleurs, la plupart des exégètes de Nostradamus, d'ailleurs, en France, je nomme par exemple Raoul Auclair, Pierre Guérin, il y a M. Fombré, évidemment, qui a fait un livre sur l'astronomisme. Mais si on parle de ce qu'on appelle le message, vraiment la perspective prophétique du christianisme, c'est M. Guérin et M. Auclair qui en ont le plus parlé. Comme par hasard, ils disent bien clairement, un dit, bon, l'astronomisme parle du roi en bonne contrade, là-bas dans la terre renouvelée. Et un autre parle du même Catherine dont j'ai parlé en relation avec le sang royal sera très mêlé. Il dit, bon, alors, il n'ose pas le dire trop clairement, parce que c'est un bonhomme qui est édité à Paris, et dire peut-être que c'est un Québécois, ça aurait déplu à certaines personnes de Paris, ou les éditeurs, tout simplement. Mais il a bien clairement dit, le changement de politique et d'orientation spirituelle de la France, il paraît provenir d'un élément, en quelque sorte, un événement étranger. C'est étranger, c'est donc pas de la France. Et en relation avec le secret bourbonien. Alors, on sait justement que le secret bourbonien, c'est relié au roi de France, dont Henri IV était le grand prototype, finalement. Alors, ce n'est pas un hasard si c'est sous Henri IV, justement, que la colonisation du Québec s'est faite. Et qu'on sait qu'il y a eu des enfants dits illégitimes, qui avaient très certainement le code génétique suivi d'Henri IV, et ces enfants-là sont très certainement ici, encore, les enfants ont eu des enfants. Alors, le sang royal, effectivement, est ici très mêlé, comme dit Nostradamus, mais il est là. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, que c'est lui, Henri IV, mais on peut penser que c'est lui. Mais essentiellement, je pense que tous ces auteurs-là français qui ont travaillé sur Nostradamus ont tous admis ce principe-là, et surtout qu'il faut utiliser la Kabbale et l'astrologie. Alors, c'est évident que mon travail est un travail que je considère, moi, préliminaire. Vous allez me dire, ben voyons donc, mais c'est un fait, parce qu'il y a bien des choses que peut-être j'aurais pu dire plus clairement dans un an, deux ans, et que peut-être qu'un autre va arriver après moi et va sortir un livre encore plus approfondi. C'est très possible. Je ne peux pas éliminer cette possibilité-là. Alors, quand je parle de fils spirituel d'Astralamus, je fais allusion surtout donc à un bonhomme qui serait une grande connaissance des langues, qui serait un guérisseur médecin et qui aurait une connaissance de toute la tradition. Alors, dans ce sens-là, il faut forcément que ce soit un personnage qui connaisse autre chose que l'astrologie et la cabale. Alors, moi...
On vous a préparé la bonne tournée de radio, télévision, conférence, et j'ai l'impression que comme c'est le vieil adage, on n'est jamais prophète en son pays. Votre livre a été publié il y a 2 semaines à peine, il est lancé depuis dimanche dernier, et c'est à peine si on en a eu des échos. Alors, oui. Rendu là-bas, ça va les toucher. C'est ça. Là-bas, ça va les toucher au point sensible, parce qu'ils sont un peu, pas désœuvrés, là, mais découragés devant la situation. Oui. Ils ont perdu la flamme dans leur véhicule.
Oui.
Ben, c'est ça. Vous êtes déjà le premier porte-flambeau de l'Amérique qui retourne là-bas avec des connaissances qui étaient enfouies là-bas, oubliées presque.
Je serais tout des choses.
Bravo. Alors, Maurice Poulain, on vous souhaite un bon voyage, un bon retour dans les vieux pays sur votre cheval blanc. Merci, Maurice.
Baptisé, qui va